Éric Turgeman, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes directeur des gestions actions et convertibles chez OFI Asset Management. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés. On sent que c'est un peu plus compliqué d'avoir une grande visibilité sur ces marchés aujourd'hui, notamment parce que la Fed n'a pas forcément fait ce qu'on attendait d'elle. Quel regard vous portez en ce mois d'octobre ?
Alors, en fait, je pense que ce qui s'est passé au mois d'août, c'est que les acteurs économiques, les marchés financiers ont pris conscience que la croissance économique allait durablement rester faible. Alors, c'est venu de la Chine, parce qu'il y a eu des chiffres chinois et puis une baisse de la monnaie chinoise. Et la Réserve fédérale ayant hésité, finalement, les marchés se disent un peu partout, ça ralentit. La réalité, c'est que la croissance va rester faible pour des raisons structurelles. On n'a pas vraiment le temps de détailler là, mais c'est des raisons démographiques, sociologiques, technologiques, et que la contrepartie, ça va être un environnement de taux d'intérêt qui va être très bas. Et les marchés sont un peu perdus, parce que d'un côté, ils se disent la croissance plus faible, c'est moins de profit, mais d'un autre côté, c'est des taux très bas, donc une alternative qui, pour moi, est très positive pour les marchés actions, mais qui peut paraître antinomique par rapport au fait que je suis en train de vous dire la croissance va rester faible.
Oui, parce que le scénario précédent, c'était effectivement de se dire ça y est, la reprise économique est là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Bon, il y avait encore des questions sur les pays émergents, il y avait la Chine bien entendu, mais on avait cette idée-là, donc que la croissance étant là, on avait cette reprise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
La croissance, elle est là, mais elle est plus faible que ce qu'on espérait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arrêter de penser qu'on va retrouver des rythmes de croissance de 4-5%. Comme on a pu avoir dans les années 80-90, parce qu'encore une fois, structurellement, il n'y a plus de raison de les avoir. Pour autant, croissance faible ne veut pas dire croissance négative. Moi, je pense que les chiffres qu'on aura vont tourner autour de 3%, plus ou moins 0,1, 0,2. On pourra avoir des chiffres de 2,8, 2,9, 3,1. Et tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas urgence pour remonter les taux d'intérêt. De toute manière, il n'y aura pas de hausse massive des taux d'intérêt. La Réserve fédérale fera sans doute un mouvement symbolique, déjà parce qu'ils l'ont dit, donc il faut ne pas décevoir et permettre aux acteurs économiques d'avoir une certaine visibilité. Ça ira pas beaucoup plus loin, ça sera accompagné d'un discours très accommodant. La BCE et la Banque du Japon seront là encore pour longtemps. Donc on va vivre dans cet environnement de forte liquidité, de croissance plus faible mais pas négative, et de d'intérêt très bas. Voilà. Alors après, une fois qu'on a dit ça, évidemment, ça crée de la volatilité, parce que quels vont être les bénéfices de certaines sociétés, notamment les cycliques, qui ont besoin de croissance. Et ce qui s'est passé au mois d'août, c'est qu'il y a eu un raccourci qui consistait à dire, puisqu'il y a moins de croissance, toutes les valeurs liées à la croissance, on les vend. Et il y a donc eu des véritables massacres sur pas mal de points de la côte.
Justement, on a vu récemment les taux à 10 ans aux États-Unis, on voit les niveaux atteints. On va dire ça fait quelques années maintenant qu'on a ce type de phénomène, c'est-à-dire quand on regarde les marchés obligataires, au début d'année on dit non, c'est plus le moment d'aller sur ces marchés obligataires, et puis à la fin de l'année on est obligé de constater que finalement il y avait des choses à faire.
Oui, alors là, si on prend le cas du noyau dur européen, on est entre 0,5 et 1%, si on parle du Bund et de l'OAT. Alors vous allez me dire, si ça redescend à 0,1%, il y aura de quoi faire. Bon, maintenant on voit bien que c'est assez mécanique, la plus grande partie de la hausse des marchés, donc de la baisse des taux, est derrière nous. Bon, voilà. Alors, effectivement, vous allez me dire, le Bund a touché 0,07 au printemps. Mais globalement, on est à des niveaux très très bas, et de toute manière, c'est pas là-dessus qu'il faut espérer de la performance. Donc après, la question, c'est, vous avez sur les actions entre 3 et 4%, on va dire 3,5% de rendement. Évidemment, si les profits s'écroulent, vous pouvez me dire, on va pas tenir ce niveau de rendement, ce niveau de dividende, c'est pas du tout ce ne sont pas mes perspectives. S'il ne s'écroule pas, vous avez une comparaison très favorable avec 3,5% d'un côté et puis 0 plus de l'autre. Voilà. Et c'est pour ça que ça me rend optimiste. Pas parce que je suis en train de dire les profits vont exploser, bien que je pense que l'année 2015 ne sera pas mauvaise en termes de profits, notamment pour les actions européennes. Le dollar, le pétrole, les taux d'intérêt, enfin, ce sont des facteurs positifs. Mais je suis pas en train de dire les profits vont exploser dans les 3 ans à venir. Je dis ils vont se maintenir, voire progresser, ce qui est largement suffisant pour être attractif par rapport à des taux très bas. Voilà, c'est très très simple.
Alors au-delà de l'accident récent concernant Volkswagen, on a vu là, on voyait par exemple Hugo Boss, alors dans le textile, dans l'habillement, faire un profit warning. On voit Nestlé. Nestlé, par exemple, valeur défensive, donc on se dit qu'on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises.
Oui, alors il y a des explications pour chacune des valeurs. Toutes les valeurs qui ont des profits dans des devises émergentes sont obligées de rapatrier des profits avec une valeur plus basse. Alors, quand c'est le dollar, on arrive à se couvrir. Quand c'est des monnaies en Asie, en Amérique du Sud, c'est plus compliqué. Donc, ils font toujours des bénéfices, mais les rapatries, quand vous rapatriez en réal brésilien, ben, vous avez moins à l'arrivée. Donc, oui, il y aura des révisions en baisse. Et comme la croissance est plus faible, il y aura des révisions en baisse. Le problème, c'est que, pour être très simple, si on attendait qu'une société fasse 100 de profit, elle va sans doute faire peut-être 80, voilà, très certainement, mais elles ont été valorisées comme si elles allaient faire 30. Et c'est en ce sens que je dis, il y a eu de l'exagération en août et en septembre sur toutes les valeurs dites cycliques qui sont liées à la croissance de l'économie.
Mmh. On se posait aussi des questions sur ces valorisations de marché, notamment marché américain, en disant que justement il y avait des soucis de côté valorisation. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu cette baisse du mois d'août, on n'est plus sur des excès de valorisation nulle part ou il y a quand même un sujet ?
Si on prend les marchés européens par exemple, on est alors selon les modèles à 14 fois ou 13-14 fois selon que vous prenez l'année en cours, les 12 mois à venir, l'année prochaine. Bon, 13-14 fois, c'est ni cher ni pas cher. C'est juste la moyenne des 30 dernières années. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en l'an 2000, quand on était à 40, on était très élevé. Qu'en 2003 ou 2007, on était tombé à 7-8, on était bradé. Qu'à 14 fois, on est à peu près à la moyenne. Bon, donc ça ne sera pas un catalyseur, ni dans un sens, ni dans un autre. Maintenant, il faut comparer ça par rapport encore une fois au taux d'intérêt. Je reviens beaucoup là-dessus. Quand vous payez 14 fois les bénéfices d'une société et que vous avez un rendement de 3,5%, ça peut paraître pas très attrayant, mais en contrepartie, vous avez des taux à zéro. Et globalement, quand vous avez des liquidités à investir, vous les mettez où ? Sur les actions, sur les obligations, un peu sur l'immobilier. Donc c'est un arbitrage permanent. Et on n'est pas en train de dire on est dans un monde, dans un univers où tout repart. On est juste en train de parler de valorisation. Sauf si la croissance s'écroule complètement, comme en 2008, si on a à nouveau Lehman Brothers, alors là, j'aurais plus le même discours. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on entend et ce n'est pas du tout les prévisions des grands organismes, de l'UFMI ou d'autres.
Le mot de la fin, justement, est-ce que dans ces périodes-là, compte tenu de ce qu'on a vu avec, par exemple, un Volkswagen, on se dit, alors ok, c'est exceptionnel, mais finalement, ça rappelle l'idée d'avoir un peu de cash parce qu'il y a un peu plus de volatilité et des accidents de marché.
Il faut toujours avoir du cash parce que ça permet justement de saisir les opportunités.
Alors qui rapporte rien, mais
oui, qui rapporte rien, mais qui sont là en attente. Voilà, c'est pas du cash parce qu'on a peur, c'est du cash parce qu'à un moment donné, il y a de l'exagération. On n'a pas le temps d'en parler là, mais les marchés financiers ne se comportent plus du tout comme ils se comportaient il y a 20-30 ans. Il faut savoir qu'il y a 85% des ordres de bourse qui sont faits de manière automatique. Ce ne sont plus des actes fondamentaux. Donc ça veut dire qu'il y a de l'exagération à chaque fois. Quand vous avez des valeurs comme les utilities allemandes qui font moins 50% en une semaine et plus 50% en 4 jours, ça n'a strictement aucun sens. Quand vous avez du cash, effectivement, vous pouvez récupérer à ce moment-là. Il y a plein d'exemples comme ça.
Mmh. Effectivement, on a cette idée-là, en tout cas, qu'il faut être flexible dans ces périodes-là.
Il faut être flexible et très calme. Et surtout très calme et avoir un horizon de temps qui est relatif à la détention d'actions.
Eh bien, on suivra ça. Merci Eric Turgeman d'avoir fait le point avec nous.
Merci Didier.